Ok, on reprend. Quand vous voulez. Des camarades qui étaient là l'année dernière ont eu la gentillesse de m'informer du fait qu'a priori, si je ne dis pas de bêtises, c'est Madame Léger pour le coup qui fera le droit de la famille au second semestre, demande le code civil. Donc ça peut être un investissement intéressant dès le premier semestre pour le coup, dès lors que ce sera nécessaire au second semestre, ça peut être intéressant pour vous. On réattaque, nous, avant de passer aux subdivisions, sur la question des limites de la distinction. Je vous ai dit donc, cette distinction, elle ne doit pas être perçue comme un absolu. Alors, parfois, elle est critiquée. Et l'une des critiques qu'on entend, elle se fait sur un plan idéologique, mais elle n'est pas complètement convaincante, cette critique-là. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à mon sens, hein, faites-vous votre avis, mais... L'une des critiques qu'on entend, c'est de dire que cette opposition publique-privée, c'est un peu une vision de société capitaliste, une opposition entre ce qui concerne l'État et ce qui ne le concerne pas, ça serait une vision capitaliste, et donc c'est critiqué sur ce fondement-là. Ce n'est pas forcément complètement convaincant, notamment quand on fait un peu de droit comparé, parce que par exemple, si vous regardez au Royaume-Uni, qui est pour le coup une société assez capitaliste, la distinction chez eux, elle est d'apparition extrêmement récente. Donc, dans les faits, on ne voit pas tellement en quoi, pourquoi, cette distinction-là, elle serait le reflet sur un plan idéologique d'une approche capitaliste du droit. Ceci étant dit, même si effectivement, avec l'exemple notamment du Royaume-Uni, mais pas seulement, on voit bien que ce n'est pas dans l'ADN des sociétés capitalistes d'opposer le droit public et le droit privé, on peut entendre l'argument. L'autre grand reproche, et celui-là est sûrement beaucoup plus convaincant que le premier, l'autre reproche, c'est de dire que si on pose une frontière tranchée entre les deux, si on oppose de manière drastique le public et le privé, on va perdre de vue un principe essentiel qui est le principe de l'unité du droit. En fait, le droit, c'est un ensemble harmonieux. Et il y a une idée qui existe et qui est de dire si on veut segmenter à outrance, en mettant vraiment d'un côté le public, d'un côté le privé, et les deux ne se rencontrent jamais, c'est l'un ou l'autre, il y aurait un risque de perte de ce qu'on appelle l'unité du droit. Ça s'entend pour le coup. En fait, on retrouve un peu, c'est pour ça que je vous disais aussi, l'approche du cours d'intro, elle est cyclique, et on retrouve des éléments qu'on a déjà vus précédemment. Hier, quand on évoquait ce que c'était qu'une règle de droit, on a évoqué notamment la finalité sociale, on a évoqué le caractère contraignant, et ces éléments-là nous ont permis de dire, en fait, le droit, c'est le reflet d'un projet politique d'un État. Et c'est pour ça que le droit évolue aussi. Et que, en fonction des organes politiques qui sont appelés à s'exprimer, en fonction de la coloration politique des institutions qui décident, en fait, le droit va changer, très clairement, forcément. Et c'est pour ça que c'est une matière vivante. Donc, au regard de cet argument-là, oui, toutes les règles de droit sont le reflet d'un projet politique. Toutes. Donc, dans cette vision-là, toutes les règles de droit sont le reflet de l'État. Et donc là, effectivement, la distinction, elle perd un peu en intensité. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement... La distinction entre public et privé, elle reste pertinente. Elle est essentielle, elle est décisive. De toute façon, on ne la fera pas tomber. Elle structure, on l'a dit tout à l'heure, elle structure nos institutions juridictionnelles, elle structure votre apprentissage et vos spécialités. Alors, je sais que c'est en recul et que vous êtes moins nombreux cette année à vouloir devenir avocat, mais c'est pareil, vous serez avocat en public ou en privé. Nous, en amphi, on est enseignants-chercheurs en droit public, ou en ce qu'on appelle droit privé et sciences criminelles, parce qu'on met les sciences criminelles dedans, j'en reparle dans un instant. Donc c'est l'un ou l'autre. Moi, je suis absolument incapable de vous dispenser un cours de droit constitué. C'est pas la peine. Voilà. Donc on a évidemment des spécialités, vous aurez des spécialités et des diplômes afférents. Donc dans cette vision-là d'organisation du droit et des professionnels du droit, elle est absolument nécessaire. la distinction. Pour autant, le fait de distinguer, ça ne veut pas dire forcément d'opposer frontalement et de dire, voilà, jamais ça se rencontre, il n'y a pas de dialogue entre les deux grands blocs qu'on a identifiés, et tout ça est chacun de son côté et on est très bien. Ce n'est pas le but. C'est une distinction, mais c'est une distinction qui, pour être historique, on est remonté au droit romain, hein, donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. C'est une distinction qui, certes, est historique, mais qui, pour autant, n'est pas absolue. Voilà. Il y a des dialogues qui s'opèrent entre les différents pans, entre le public et le privé, et il y a au surplus, on va le voir derrière, il y a un certain nombre de droits qu'on n'arrive pas à intégrer pleinement ni dans l'un ni dans l'autre. Donc il faut favoriser le dialogue. Mais, alors, c'est peut-être un discours qu'il est un peu tôt pour vous tenir en début de première année, mais il faudra garder ça dans un coin de votre tête quand même si on n'est pas appelé à se retrouver après le cours d'intro. Vous vous spécialiserez sûrement. En tout cas, c'est sans doute le projet que vous portez. Pour une large part en privé, mais vous aurez des spécialisations. Ne négligez jamais le tronc commun. Un bon spécialiste avant tout, c'est un bon généraliste. Voilà. Vous vous spécialiserez quand vous aurez les épaules pour être spécialiste. Et pour avoir les épaules, il faut être un excellent généraliste. Tous les spécialistes qui ont négligé le tronc commun de l'apprentissage général sont en fait de mauvais spécialistes, il faut le dire clairement. Voilà. Donc ne négligez jamais ça. Et évidemment, derrière une culture générale de droit, ça porte aussi. Voilà. Et donc, bah, vous voulez devenir publiciste, c'est pas mal quand même de savoir comment ça fonctionne, un contrat dans le code civil, etc. Vous voulez devenir privatiste, c'est très bien. C'est pas mal de savoir comment fonctionne le droit administratif malgré tout. D'autant plus, et ça, discuter avec des professionnels du droit, vous le constaterez très vite, hein. Nous, pour des raisons de temps, d'organisation, de modalités d'enseignement, on segmente tout. Et donc on a nos pôles de spécialité, on intervient sur tel et tel cours avec des objets plus ou moins précis. Dans la vie professionnelle, ça ne se passe pas comme ça, hein. Et dans la vie professionnelle, pour parler sur des litiges de droit privé par exemple, vous allez avoir des contentieux qui vont concerner du droit des contrats, mais c'est du droit des travaux. Mais attention, parce qu'il y a un pan pénal dans ce litige-là, et en fait, tout va se croiser. Quelle que soit votre spécialisation, vous allez faire un peu de tout. Donc, perdez jamais ça de vue, et allez pas plus vite que ce qu'il faut faire. Restez des généralistes avant de vous spécialiser. La spécialisation, c'est la cerise sur le gâteau, hein, mais elle ne se substitue pas aux apprentissages antérieurs. Bref. En dehors de ça, retenez ça, il y a un dialogue qui peut s'opérer entre le public et le privé, et il y a un dialogue qui va s'imposer à nous quand on regarde ce qui va faire l'objet d'une section 3 et qui concerne les subdivisions internes du droit. Pour une raison simple, c'est qu'on va voir qu'en plus des subdivisions internes au public et des subdivisions internes au privé, on va rencontrer ce qu'on appelle des droits mixtes, c'est-à-dire en fait des droits qui ne relèvent ni d'un tronc ni de l'autre. Vous avez souvent, je parle de tronc droit privé, de tronc droit public, parce que très souvent, on utilise la métaphore des branches du droit. Vous vous êtes spécialisé dans telle ou telle branche. Vous êtes devenu un juriste en droit de la famille, vous faites du droit de l'environnement, etc. C'est des branches du droit. Ça suppose que ces branches, elles se rattachent à un tronc, et que donc, vous ayez un tronc public, un tronc privé. Il s'avère que certaines de ces branches-là, si on filait la métaphore, se sont un peu enchevêtrées entre les deux arbres, au point que parfois on a du mal à identifier le tronc de naissance. Voilà, les droits mixtes qui sont là. C'est une espèce de zone grise qui confirme bien donc, ce que je vous disais à l'instant de porosité de la frontière entre le public et le privé, des droits qu'on classe, parce que le juriste classe toujours et qu'on est tenu à ce classement-là, donc on va classer plutôt en public, plutôt en privé, mais qui sont en réalité des droits qui relèvent par nature et du public et du privé. Alors, d'abord, quelques mots sur les subdivisions de droit public. Le droit public, c'est donc la catégorie générale, un des deux grands troncs. Un certain nombre, même si vous êtes minoritaire, un certain nombre d'entre vous s'orientent, se destinent plutôt, là, un instant T, ça peut bouger, hein, mais se destinent plutôt à une carrière de droit public. Une fois que vous avez passé cette première catégorie de savoir que vous êtes publiciste, il va falloir aller chercher une branche. Certains vont se spécialiser en droit constit, d'autres en droit administratif, d'autres en droit de l'environnement, d'autres en droit international public. Il y a des branches dans ce tronc-là. Public, c'est votre orientation générale. Au sein du droit public, vous allez trouver des embranchements, des subdivisions. On va dire quelques mots de ces subdivisions-là, mais c'est des spécialisations, en fait, pour vous, à ce stade-là, les branches. Le moins surprenant, parce que vous en faites déjà, c'est le droit constit. Voilà. La première grande branche du droit public, c'est le droit constitutionnel. C'est le plus logique, parce que c'est le droit qui va regrouper les règles qui sont relatives à l'État, au fonctionnement de l'État, au pouvoir politique, etc. C'est ce droit-là qui est l'architecte, un peu, de nos institutions publiques, le rôle du président, le rôle de l'Assemblée, etc. Donc c'est pour ça que quand vous faites du droit constitutionnel, vous allez parler des pouvoirs du Parlement, du rôle du président, de la place du Conseil constitutionnel aussi. C'est ces institutions-là. Ensuite, l'autre embranchement possible, c'est le droit administratif. Droit administratif qui lui-même connaît des subdivisions, je ne m'arrête pas dessus là, vous verrez ça l'année prochaine. À ce stade-là, retenez que quand on fait du droit administratif, on s'intéresse cette fois-ci au fonctionnement des administrations et des services publics. C'est l'État avec un grand E, si on veut, sur le droit constit, et c'est les administrations, les services publics, quand on fait du droit administratif. Essentiellement, vous allez voir du contentieux entre l'État et les institutions publiques, ça arrive, ou des contentieux entre les institutions publiques et des particuliers, ou alors des contentieux entre les institutions publiques entre elles. Voilà, entre les personnes publiques entre elles. Le droit administratif, c'est ça. Et vous allez voir tout ce qui est acte administratif, la responsabilité administrative, le droit de la fonction publique, évidemment, les marchés publics, les collectivités locales, apprenez pas la liste par cœur. Je vous la donne juste pour vous donner une idée de ce qu'il y a derrière le droit administratif. Les questions de police administrative aussi, tous ces éléments-là, c'est des questions qui relèvent du droit administratif. C'est un champ qui est très large, c'est pour ça que le droit administratif lui-même se subdivise, parce que précisément, il a un champ de compétences extrêmement large. C'est aussi un droit, ça c'est pas inintéressant de le savoir dès maintenant, parce que ça va éclairer un peu différemment le chapitre 3. C'est un droit très original, le droit administratif, parce que, pour l'essentiel, les règles de droit qui s'appliquent en droit administratif sont des règles jurisprudentielles. La source principale du droit en droit administratif, c'est le juge. C'est-à-dire que, pour beaucoup, c'est pas systématique, mais pour beaucoup, les règles de droit en droit administratif, elles sont pas créées par le législateur, par le Parlement, mais elles sont créées par le juge. On verra dans le chapitre suivant que la jurisprudence, donc les décisions de justice, les décisions rendues par le juge, la jurisprudence, c'est effectivement en principe une source du droit, mais c'est ce qu'on appelle une source complémentaire. Les sources principales qu'on verra aussi plus tard, c'est la Constitution, le droit de l'Union, les traités, la loi, etc. Ce qu'on appelle les sources instituées. La jurisprudence, c'est une source, mais c'est une source secondaire. Pas en droit administratif. En droit administratif, vous allez bosser quasiment les règles de droit que par le prisme des décisions du Conseil d'État. Ce qui veut dire que là, pour le coup, il y a un peu de par cœur. Parce qu'il faut connaître les arrêts, il faut connaître le contenu des arrêts. C'est une logique différente, mais il y a derrière l'idée que c'est effectivement le juge qui construit le droit. Le juge devient dans certaines matières une source principale. Alors maintenant, c'est une matière qui est de plus en plus codifiée et vous avez des codes spécifiques. Regardez sur Légifrance les codes qui existent. Hein. Vous avez le code des marchés publics, le code des collectivités territoriales, le code de l'éducation, le code de la justice administrative. Voilà, il y en a partout, mais pour l'essentiel, ce droit administratif qui est donc le droit de la puissance publique en quelque sorte, c'est un droit qui est d'origine essentiellement prétorienne, jurisprudentielle. Donc, constit administratif, c'est les deux grandes dimensions internes du droit public et reste le droit international public. On en a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, quand on parlait des divisions dans l'espace, on le retrouve ici. Le droit international public, lui, il règle les relations, les rapports des États entre eux. Donc, il va encadrer ce qu'on appelle les rapports interétatiques entre États. Et il va structurer aussi tous les organes qui permettent le fonctionnement. On donnait l'exemple du Conseil de sécurité de l'ONU tout à l'heure, c'est exactement ça. Alors, c'est vrai qu'on s'interroge parfois sur la réalité au sens de l'efficacité du droit international public. Vous vous souvenez quand dans le chapitre 1, on a parlé des règles de droit et de ce qui faisait leurs caractéristiques. On a expliqué que finalement, la grande caractéristique, sans doute, de la règle de droit, c'était un peu le spectre de la sanction. Et que c'est parce qu'on sait que les règles qui sont posées ont un caractère obligatoire qui, le cas échéant, est sanctionné, que très souvent, on respecte l'ensemble des règles. Ce caractère de la sanction, en droit international public, il n'est pas évident. Et c'est assez logique, en fait, quand on y réfléchit deux secondes. Il y a beaucoup de logique de diplomatie aussi. C'est compliqué dans des relations entre États de dire « En fait, voilà, vous avez franchi la ligne jaune, la règle c'était ça dans le traité, ça fonctionnait comme ça, vous n'avez pas suivi, donc bam, on sanctionne. » Il y a des enjeux politiques derrière qui peuvent éventuellement amener à des conflits, voire à des conflits armés, qui font qu'on est prudent avec une application carrée de la sanction. Voilà. Donc en fait, le droit international public, c'est une branche particulière notamment à cause de ça, c'est une branche pour le coup éminemment politique. La sanction, le caractère obligatoire de la règle en droit international public, elle ne s'entend pas pareil qu'en civil, en contrat, en famille, etc. C'est un peu différent. Il y a des enjeux de relations entre États qui font que on ne peut pas appliquer bêtement, de manière disciplinée, la sanction telle qu'elle. Parfois, on le fait quand on a la marge de l'honneur, et puis parfois, on sent que c'est un terrain glissant et il vaut mieux discuter. Donc souvent, ceux d'entre vous qui seront attirés, c'est passionnant, hein, mais ceux d'entre vous qui seront attirés par le droit international public feront au moins autant de sciences politiques que de droit. J'aurais même tendance à vous dire, au regard de certains paysages actuels, font plus de sciences politiques que de droit au sens strict. Voilà. Ça se range dans la catégorie du droit parce que ça reste des règles de droit, mais leurs caractéristiques, pour le coup, et leur application sont un peu différentes de ce qu'on retrouve par ailleurs. Voilà pour le droit public. On passe aux questions de droit privé. Ça fait l'objet d'un paragraphe 2. Qu'est-ce qu'on trouve dans les subdivisions du droit privé ? Évidemment, là aussi, vous avez des subdivisions. Ces subdivisions elles-mêmes se subdivisent. Je vous donnerai quelques exemples, mais chacune des subdivisions connaît des subdivisions elles-mêmes. En gros, vous avez deux grands pans dans le droit privé, le civil d'une part, et le droit commercial et des affaires d'autre part. Dans le civil, d'abord. Qu'est-ce qu'on met dans ce civil ? Le droit civil, classiquement, dans une présentation traditionnelle, c'est ce qu'on appelle le droit commun des Français. Civil, ça vient de civis hein, en latin, donc c'est le citoyen, donc c'est le droit qui concerne la personne, le droit civil. Et ce serait donc ce droit commun des Français. Ce qui me permet une parenthèse essentielle. Qu'est-ce que c'est que le droit commun ? Quand on dit là le droit commun des Français, c'est quoi le droit commun ? Le droit commun, c'est le droit général. Et parce que c'est le droit général, c'est le droit qui s'applique quand il n'existe pas de règles spécifiques pour trancher le litige. Donc le réceptacle traditionnel de ce droit commun des Français, c'est le Code civil, on en reparlera plus tard. Le code de 1804, hein, qui évidemment, enfin, il a été promulgué en 1804. Depuis 1804, il a, vous vous en doutez bien, connu un certain nombre de réformes, mais il est né en 1804, et c'est dans ce code-là que vous trouvez les règles de droit civil. Pourquoi est-ce que je fais la parenthèse sur le droit commun ? Parce que ça me permet tout de suite de vous dire, de faire attention maintenant que vous devenez des spécialistes, en devenir, mais que vous êtes des spécialistes malgré tout, à attention à la façon dont on parle de droit dans les médias. Notamment, il y a une expression que vous avez tous entendue au moins 1000 fois, à la télé, à la radio, lue dans la presse, c'est l'expression de vide juridique. Les journalistes adorent ça. Dès qu'il y a un truc qui sort, on vous dit « il y a un vide juridique, il n'y a pas de texte ». C'est très bien, mais ça n'existe pas en droit français, le vide juridique, en fait. C'est un non-sens. Pourquoi c'est un non-sens ? Parce que, précisément, il existe un droit commun sur lequel on peut se reposer dans l'hypothèse où il n'existerait pas de règles spéciales. Donc, ce que les journalistes veulent vous dire quand ils vous parlent de vide juridique, ils évoquent l'idée qu'il n'existe pas de texte spécial, particulier, pour régler la question. Ça, ok, effectivement. C'est pas forcément une mauvaise chose, ça rejoint ce qu'on disait hier. En fait, à force de vouloir un texte spécial à chaque fois qu'il y a une question précise, on se retrouve avec une inflation législative absolument titanesque. Mais c'est ça qui vise en réalité quand il vous parle de vide juridique. L'absence d'une règle spéciale. Mais la notion de vide juridique au sens de lacune du droit, au sens de, en fait là, on est le bec dans l'eau, on n'a rien, on est face à un problème où il n'y a aucun outil juridique pour répondre, ça n'existe pas. Voilà. Parce que le juriste est obligé de se tourner vers le droit commun s'il ne trouve pas de réponse dans le droit spécial. Donc la réponse, il la trouvera toujours. Vous pouvez faire un renvoi, mais quand on parlera de la jurisprudence comme source complémentaire, je vous expliquerai notamment la notion de déni de justice, c'est-à-dire qu'il est interdit au juge, si certains d'entre vous deviennent magistrats plus tard, il est interdit au juge par la loi de refuser de trancher un litige. C'est ça le déni de justice. Le juge ne peut pas refuser de trancher un litige. Bon, bah, quand on sait ça, ça veut dire que par définition, le vide juridique, il n'existe pas. Si on oblige le juge, quoi qu'il arrive, à trancher un litige, c'est que par définition, les éléments pour trancher ce litige existent. Même si la question est complètement nouvelle, les éléments, il les trouvera. Alors il ira les chercher dans le droit général et il les interprétera pour coller à la situation, mais le vide juridique n'existe pas. Sinon, vous ne pouvez pas sanctionner le déni de justice, ça n'a pas de sens. À partir du moment où on oblige un magistrat à trancher, c'est que par définition, il a les éléments pour le faire. Donc s'il a les éléments pour le faire, c'est que le vide juridique n'existe jamais. Ça semble être une parenthèse comme ça. C'est absolument essentiel. Il y a plusieurs clés pour réussir une première année en droit. Le respect de la méthodo, qui est déterminant. Si vous n'avez pas la méthode, vous vous planterez, c'est sûr. Donc on va vous l'apprendre, la méthode, hein, pas de secret. Il y a aussi la maîtrise du vocabulaire. Faites attention. Voilà. Employez pas des termes, je le dis d'autant plus facilement que parfois vous trouvez des professionnels du droit et des professionnels installés qui emploient des tonnes et des tonnes de vocabulaire juridique parce que ça fait spécialiste et que ça fait... Laissez tomber. Comprenez-les, les termes. Il n'y a rien de pire qu'une copie qui est surchargée de vocabulaire technique auquel vous n'avez rien compris. C'est pas la peine, ça ne sert à rien. Employez les termes dont vous comprenez le sens et bossez sur le sens des mots. Ça vous est peut-être déjà arrivé, hein, on reçoit un courrier d'un avocat, peu importe, et c'est barré de termes juridiques, il faut ouvrir le vocabulaire capitant quasiment sur chaque ligne. Vous pouvez être à peu près certain que ce n'est pas un très bon juriste qui se cache derrière. Le droit, ce n'est pas si compliqué. Hein. C'est habillé d'un vocabulaire qui, lui, parfois est très technique. Alors, c'est dur sur certaines questions, il ne faut pas mentir, mais ça peut se simplifier. Méfiez-vous et ne devenez surtout pas des juristes qui se sentent habités d'un truc comme ça parce qu'ils ont le vocabulaire technique. Généralement, il n'y a rien derrière. Voilà. Croyez-moi, d'expérience, c'est beaucoup plus difficile de simplifier une question technique que de rendre très technique une question simple. Ça, de rendre hyper technique une question simple, essayez autour de vous avec des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un amphi, vous allez voir que dans 15 jours, 3 semaines, vous pouvez le faire déjà. Vous allez apprendre plein de termes hyper techniques, le demandeur au pourvoi, ça, effectivement, les expressions comme ça. Et donc, hop, on se fait des dizaines de phrases hyper techniques et donc on fait juriste. Ça sert à rien, faites le contraire. Vous apprendrez les termes une fois que vous aurez compris le sens des concepts. Et là, croyez-moi, la connaissance et la maîtrise du droit, elle est drastiquement différente. Et vous ne laissez pas impressionner par la poudre aux yeux comme ça des termes qui sont balancés. Ça ne sert à rien, c'est nul. C'est bien quand vous maîtrisez le sens, mais généralement quand les termes sont balancés à tout va comme ça, pas grand-chose derrière. Donc concentrez-vous sur le sens plutôt que sur le terme lui-même, qui peut sembler hyper technique. Ok, donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il n'y a pas de vide juridique, en tout cas, il n'y a pas de vide au sens de silence absolu du droit, il n'y a pas de lacune du droit. Il peut y avoir des règles qui sont insatisfaisantes parce que pas assez précises. Mais c'est différent d'une absence. L'absence, elle n'existe jamais en droit. Voilà. Il n'y a pas de vide juridique au sens de néant. Il peut y avoir un vide juridique au sens d'imprécision, mais c'est très différent. Une fois qu'on a précisé ça, qu'est-ce que ça recouvre, le droit civil ? Étymologiquement, encore une fois, c'est le droit qui concerne le citoyen. Donc, vous allez trouver dans le droit civil l'ensemble des règles qui concernent le citoyen, d'abord pour lui-même, c'est le droit des personnes notamment. Alors, quand vous allez faire du droit des personnes, je ne sais plus si c'est premier ou second semestre cette année, mais vous allez en faire, vous allez faire les règles sur la détermination du nom, du domicile, les règles de l'état civil, sûrement les questions de genre aussi. Une précision essentielle quand même, quand on parle de droit des personnes en règle générale, chacun a son approche en cours, mais en règle générale, quand on parle du droit des personnes, ça ne concerne pas que les individus, c'est-à-dire les personnes physiques comme vous et moi, ça concerne aussi l'autre catégorie de personnes que reconnaît le droit, qui est ce qu'on appelle les personnes morales, c'est-à-dire les sociétés, les associations, les fondations, etc. Une personne en droit, ce n'est pas forcément une personne comme vous et moi, ça peut être une personne morale, c'est-à-dire une entité. L'État, il a la personnalité morale. C'est une personne au sens du droit. Voilà. Quand vous faites du droit des personnes, vous faites évidemment des personnes physiques, mais vous faites aussi des personnes morales. Et donc, vous allez travailler sur les personnes morales, sur le nom, le siège social, la durée de vie de la personne morale, etc. Une fois qu'on a vu ce droit des personnes, qui est donc la personne pour elle-même, il y a un second mouvement dans le droit civil qui est un mouvement du rapport de cette personne avec d'autres personnes. Et donc évidemment, vous avez toutes les hypothèses de famille au sens large, c'est-à-dire le droit de la famille que vous verrez au second semestre, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, toutes ces questions-là qui sont en fait relèvent du droit de la famille, même indirectement. Et puis vous pouvez faire aussi du droit des contrats, du droit de la responsabilité civile, du droit des biens, les questions de propriété, etc. Je n'ai pas mis ma spécialisation à moi, mais vous pouvez faire du droit de la propriété intellectuelle. Donc dans la propriété intellectuelle, vous avez également des subdivisions. Vous verrez que je fais de la pub plus ou moins cachée pour ma formation derrière. Ce n'est pas moi qui dirige le M1, donc je le fais d'autant plus facilement, mais quand je peux placer l'API, je le fais un peu plus sérieusement quand vous faites de la propriété intellectuelle. Soit vous faites du droit d'auteur, donc la question de la protection des œuvres, soit vous faites ce qu'on appelle de la propriété industrielle, et là vous faites des marques, des brevets, des dessins, des modèles, etc. Donc, dans les subdivisions à l'intérieur, vous avez également des subdivisions. En fait, ça ne s'arrête quasiment jamais. Et plus il y a, on retrouve là encore nos idées d'avant, hein, plus il y a d'inflation législative, et plus on est obligé de créer des échelles aussi de subdivisions. Donc vous allez les trouver absolument partout. Et dans le droit des contrats, vous pourriez distinguer aussi. Maintenant, il y a les contrats à distance. Évidemment, quand on dit contrat à distance, l'expression fait un peu passer. C'est en fait les contrats notamment conclus en ligne qui prennent une ampleur considérable et qui ont maintenant des dispositions spécifiques, etc. Donc ça ne s'arrête quasiment jamais. Un certain nombre de ces spécialités se sont autonomisées. Vous avez historiquement les règles qui relèvent du droit civil au sens strict, vous les trouvez dans le code civil. Une parenthèse pour vous expliquer ce que c'est que le code civil. On a dit tout à l'heure que c'était un code qui avait été promulgué en 1804. En fait, c'est Napoléon qui charge au tout début du 19e, à partir de 1800-1801 en gros, qui constitue une commission avec quatre juristes, Alors, vous travaillerez ça en TD aussi, hein, mais j'en dis quelques mots là. Deux juristes de ce qu'on appelait à ce moment-là, pendant la période révolutionnaire, deux juristes de droit écrit, Portalis, évidemment, et Malville. Portalis, ça s'écrit P-O-R-T-A-L-I-S, et Malville, ça s'écrit M-A-L-E-V-I-2-L-E. M-A-L-E-V-I-2-L-E. Donc, deux juristes des pays de droit écrit, Portalis, Malville, et deux juristes de ce qu'on appelait les pays de coutume, Tronchet et Bigot de Préameneux. Tronchet, ça s'écrit T-R-O-N-C-H-E-T. T-R-O-N-C-H-E-T. Et Bigot de Préameneux, ça s'écrit B-I-G-O-T. B-I-G-O-T, plus loin D-E, plus loin P-R-E-A-M-E-N-E-U. B-I-G-O-T et Préameneux, P-R-E-A-M-E-N-E-U. Portalis, Malville pour les juristes de droit écrit, Tronchet et Bigot de Préameneux pour les juristes des pays de coutume. Vous trouvez ça sur Google en 10 secondes. L'idée. Une année, il faudra que l'un d'entre vous m'explique pourquoi. Tous les ans, ça se met à discuter sur Bigot de Préameneux. Tous les ans. Pour le coup, vraiment, je serais curieuse. Donc, ce qui est intéressant, pourquoi elle est composée comme ça, cette commission? Parce que l'idée, c'est l'objectif de Napoléon, c'est de représenter une espèce de synthèse entre les idées de l'Ancien Régime et celles de la Révolution. Voilà. Qui n'est pas une rupture absolue dans les règles, mais qui est une modernisation, et évidemment, ça a été un outil de révolution du... un outil de révolution du droit. Donc, il était extrêmement investi dans le processus. C'est lui qui a chargé la commission de rédiger le projet de code civil. Projet de code civil qui a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire français. C'est un projet qui a été présenté au gouvernement accompagné du discours préliminaire de Portalis. Discours préliminaire de Portalis que vous aurez dans votre première fiche de TD, je ne suis pas sûre qu'il y ait un seul enseignant-chercheur chargé de l'intro au droit qui ne mette pas le discours de Portalis dans les fiches de TD en intro. C'est une espèce de passage obligé. Lisez-le, et quand je dis lisez-le, ça c'est pareil, n'apprenez pas des phrases du discours par cœur, je m'en moque. Essayez de le penser par le prisme d'un juriste d'aujourd'hui. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Est-ce que ce qui est dit en 1804, quand on adopte le Code civil, a encore un sens, a encore une portée et encore opérationnel aujourd'hui? C'est ces questions, c'est ce type de questions-là qu'il faut vous poser. Et évidemment, si la réponse est négative à certains égards, pourquoi? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé? Ne lisez pas les documents dans les fiches de TD ou autres, un peu m'importe, mais... ne lisez pas les documents pour lire comme ça et interrogez-vous. C'est ça, en fait, qu'on essaye de venir chercher. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça déclenche comme type de réflexion chez vous? Donc, adoption, il y a une très longue procédure législative, évidemment, parce que c'est un travail d'une ampleur inouïe. Et vous avez une adoption du texte en 1804. Il y a une promulgation des lois nouvelles qui sont donc réunies dans ce Code civil qui est un ouvrage unique. Hein. Vous trouvez toutes les règles du droit civil en 1804 dans le même outil, dans le même instrument qu'est le Code civil. Enfin, évidemment. Et ce Code civil, parce qu'il pose des lois nouvelles, abroge le droit antérieur. En fait, en adoptant le Code civil, on tire un trait sur le droit qui s'appliquait jusque-là. Il y a une substitution qui s'opère. Le Code civil remplace les règles antérieures qui portaient sur les mêmes objets. Et donc, vous avez un article 7. Ne le notez pas, c'est pas la peine. C'est l'article 7 historique du Code civil. À compter du jour où ces lois sont obligatoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières qui sont l'objet des dites lois, composant le présent texte. Autrement dit, à partir du moment où le Code civil entre en vigueur, le droit antérieur disparaît. Le Code civil se substitue au droit qui existait avant lui. Alors, c'est un code qui, évidemment, a connu un succès absolument considérable. Il s'est appliqué de manière un peu évidente et qui est lié à l'Empire napoléonien lui-même. Mais il est resté en vigueur jusqu'en 1815 en Belgique, par exemple. Il est resté en vigueur jusqu'en 1900 dans les pays rhénans. Donc certains comtés de l'actuelle Allemagne, hein, mais c'est pas la même carte évidemment à ce moment-là. Et jusqu'en 1912 dans le canton de Genève, en Suisse. Donc ces applications telles quelles, elles s'expliquent davantage par l'Empire napoléonien, surtout, et là c'est plus intéressant à mon sens, il a servi de modèle à des codes étrangers. On s'est servi du code napoléonien pour créer des législations dans d'autres États. Plus précisément, d'autres États se sont inspirés du code napoléonien pour construire leur propre législation sur le droit civil. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Espagne, pardon, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de certains pays en Amérique latine, c'est le cas du Portugal. Il y a un certain nombre d'hypothèses comme ça où voilà, on ressent très bien l'influence qui a été l'influence du code napoléonien. Et puis derrière, on aura d'autres codes. Le code de procédure civile en 1806, le code de commerce, on va parler du droit commercial dans un instant, le code de commerce en 1807, et puis vous avez le code pénal en 1810, le code de l'instruction criminelle en 1812, etc. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les dates, ce n'est pas les noms des codes, c'est le fait de voir que après la période révolutionnaire et sous Napoléon, vous avez une prise d'amplitude du droit écrit, notamment codifié, avec un certain nombre de codes, donc, qui est inconnu jusqu'alors. Voilà. L'importance quantitative et qualitative du travail législatif à ce moment-là est absolument considérable. Donc ça, c'est pour le droit civil. Et puis, vous avez en parallèle ce qu'on appelle le droit commercial et des affaires. Alors, ce droit commercial et des affaires, c'est un voisin du droit civil. Il y a une parenté qui est très proche entre les deux. C'est assez logique dans l'absolu, c'est deux branches du même tronc. Hein. Donc, l'existence d'une parenté dans l'absolu, elle n'est pas particulièrement surprenante. La question qui peut se poser, c'est pourquoi avoir créé une branche autonome en réalité ? Si vraiment les deux sont aussi proches que ça, s'il y a une parenté aussi forte entre le droit commercial et le droit civil, pourquoi est-ce qu'on a créé une autonomie du droit commercial? Alors la raison, elle est d'abord historique. À partir du XVIIe siècle, il y a de plus en plus de règles de droit qui apparaissent. Alors à ce moment-là, c'est dans des ordonnances royales, hein, c'est plus les mêmes sources, mais au XVIIe, c'est dans des ordonnances royales. Vous avez de plus en plus de règles de droit qui traitent spécifiquement du droit commercial, exclusivement évidemment à ce moment-là du commerce sur terre et du commerce maritime. Le commerce aérien, ça vient d'Allemagne plus tard et ça se greffera sur les règles de commerce terrestre, pardon, et de commerce maritime. Et en fait, on a considéré assez tôt que ces questions de droit commercial, elles étaient, en dépit de la proximité qui existe avec le droit civil, elles étaient assez spécifiques, et que donc il était bienvenu de penser le droit commercial de manière autonome, détaché du droit civil. Donc les deux relèvent du même tronc qu'est le droit privé, mais c'est bien deux branches distinctes. Et donc il y aura sans doute parmi vous des commercialistes, c'est-à-dire des spécialistes de droit commercial. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du droit commercial ? Tous les actes de commerce, c'est-à-dire les actes réalisés par les commerçants pour les besoins du commerce, hein, dans le cadre des activités commerciales, le statut du fonds de commerce, et puis naturellement, en droit des affaires, toutes les questions de droit des sociétés. Voilà. On a expliqué précédemment, notamment quand on a parlé du droit des personnes, que la personne, c'est aussi la personne morale, et que cette personne morale, elle a un nom, un domicile, un patrimoine, des droits qui lui sont reconnus. Donc quand vous faites du droit des sociétés, vous travaillez aussi beaucoup là-dessus. Et c'est le droit commercial et des affaires qui va encadrer l'ensemble de ces spécialisations-là. Vous allez faire du droit des procédures collectives aussi. Les cessations d'activité des sociétés, etc. Tout ça, c'est de la procolle. Donc, il y aura des spécialistes de procédures collectives, peut-être parmi vous aussi. Le droit commercial, si on veut résumer, c'est le droit qui s'applique aux individus commerçants et aux sociétés. Voilà. Dès lors qu'ils se livrent au commerce. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus le code civil qui est le réceptacle des règles, mais c'est le code de commerce. Attention toutefois, et là encore, on retrouve une idée dont je viens de vous parler. Le code de commerce, c'est le lieu spécial, spécifique, où vous allez trouver les réponses pour régler des questions de droit commercial. Il peut advenir que vous ne trouviez pas la réponse à votre question nouvelle dans le code de commerce. Dans ce cas-là, et puisqu'il n'existe pas de vide juridique, vous vous retournerez vers le code civil. Parce que dans le code civil, vous avez une part très importante des dispositions qui sont relatives au droit des contrats, et que si vous ne trouvez pas la réponse précise sur votre contrat commercial dans le code de commerce, vous irez la chercher dans le code civil. Voilà. Là, typiquement, c'est une illustration de l'absence de sens de notion de vide juridique. Et donc, parfois, vous allez tomber sur des arrêts en droit commercial où le juge, à défaut d'une disposition spécifique dans le code de commerce, va trancher un litige de droit commercial en allant chercher dans le droit civil et dans le code civil. Voilà. Cet exercice de gymnastique intellectuelle, presque, vous allez le pratiquer très vite. Il faut vous y faire très vite. Gardez ce cap-là en tête. Il n'y a pas de vide juridique, donc si je ne trouve pas de réponse spéciale dans un texte spécial, je me rabats sur le côté droit commun, en privé, légalement. C'est le code civil. Voilà donc pour les deux grandes matières du droit privé. L'évolution, comme pour le droit public, elle est absolument permanente. Tout le temps, ça bouge. En droit de la famille, les règles, elles ont bougé sur les 2-3 dernières années. En droit des contrats, vous avez eu une réforme immense avec l'ordonnance de février 2016 qui a changé, qui était une réforme hyper attendue et qui a changé énormément de choses en droit des contrats et droit de la preuve. Donc c'est une réforme qui est passée par ordonnance en février 2016 et qui a été un point de bascule absolu, notamment, et ça il faut faire très attention du coup, parce que c'est une réforme qui a changé un certain nombre de numéros d'articles dans le code civil. Gardez-le dans un coin de votre tête. Vous avez gratuitement sur Légifrance ce qu'on appelle un tableau de concordance. Allez le télécharger. Vous l'aurez dans vos outils de travail, c'est essentiel d'en avoir un. Pourquoi ? Parce que parfois, on ne va pas vous faire travailler que sur des arrêts qui ont 3, 6 mois, 1 an. Il va falloir que vous lisiez aussi des arrêts qui parfois ont 10, 15, 20, 50 ans. Ces arrêts-là, qui ont 10, 15, 20, 50 ans, ils ont donc été rendus sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance. Sauf que l'ordonnance, elle a changé un certain nombre de numéros d'articles. Et donc, parfois, vous allez aller lire un arrêt de la Cour de cassation, vous allez lire le numéro de l'article qui est utilisé pour répondre, et puis vous allez aller lire l'article avec le numéro actuel, et vous allez vous dire, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi elle vise cet article-là, alors que l'article 1382 n'a rien à voir ? Bah parce qu'avant à la réforme de 2016, l'article 1382, je vous donne un exemple, ne le notez pas, mais avant la réforme de 2016, l'article 1382, c'est le grand article qui encadre la responsabilité civile, que tout juriste connaît par cœur, c'est l'espèce de passage obligé pour se considérer comme un juriste. Donc l'article 1382 vous dit que tout fait quelconque de l'homme oblige celui qui l'a causé à le réparer, c'est la disposition traditionnelle. 1382, depuis la réforme de 2016, c'est devenu l'article 1240. Donc aujourd'hui, pour viser la même disposition qu'il y a 15 ans, on va parler de l'article 1240. Si vous lisez une décision de la Cour de cassation il y a 15 ans, elle visera l'article 1382. Il faut absolument que vous soyez conscient de ça, parce que sinon vous ne comprendrez pas les arrêts que vous allez lire. Donc vous téléchargez le tableau de concordance qui vous dit, en fait, avant 2016 c'était 1382, depuis 2016 c'est devenu 1240. Et une fois que vous avez votre tableau de concordance, il n'y a plus de difficulté. Mais ayez bien conscience de ça. Et donc c'est aussi l'occasion de vous dire que, évidemment, il faut avoir une pleine conscience du fait que vous êtes dans une matière, en faisant du droit, je veux dire, dans un champ d'études qui est en constante évolution. C'est permanent. Et c'est d'autant plus permanent qu'avec l'inflation législative, maintenant on a des nouveaux textes quasiment par centaines chaque matin, et que donc ça ne s'arrête jamais. Ça bouge tout le temps, et il faut en permanence vous tenir au courant de l'actualité, etc., parce qu'il peut se passer un certain nombre de choses en 6 mois. On fait 10 minutes de pause et on attaque la dernière heure avec les droits mixtes notamment.